Bonjour à tous. Téhéran frappe la Jordanie avec 20 missiles balistiques. Les États-Unis ont frappé et détruit 5 pétroliers iraniens. On craint une escalade dans la région.
Israël riposte aux sanctions de la Grande-Bretagne contre la Judée Samarie. Paris est aussi dans le viseur de Jérusalem. J-48 avant les élections du 27 octobre en Israël, 38 listes ont été présentées hier à la commission électorale de la Knesset.
Et enfin en Belgique, le PTB a convié à manifester Hassan Piker, figure de l'extrême gauche démocrate américaine, pourtant régulièrement accusé d'antisémitisme et devenu encombrant même pour son propre parti.
L'Iran aurait tiré une vingtaine de missiles balistiques en direction des bases militaires américaines en Jordanie, notamment sur la base d'Al-Azraq.
Les autorités jordaniennes annoncent que leur système de défense aérienne ont intercepté 18 missiles sur 20. Aucune victime n'a été signalée à la suite de ces attaques. Les gardiens de la révolution islamique ont également menacé de viser les navires présents dans les ports du Koweït et du Bahreïn, qui accueillent aussi des forces américaines. Certaines informations de la nuit indiquent également que l'Iran a attaqué Bahreïn. Le baril de pétrole pourrait dépasser la barre symbolique des 100 dollars suite à ces attaques, qui soulèvent la question de savoir si l'Iran a déclenché une nouvelle guerre. Les États-Unis devraient riposter avec force.
Et plus tôt cette nuit, le commandement central américain, le CENTCOM, avait frappé et détruit 5 pétroliers iraniens transportant du pétrole brut en réponse à 2 tentatives d'attaque menées par les gardiens de la révolution contre un bâtiment de l'US Navy au cours des 2 derniers jours.
Le CENTCOM a précisé que les équipages à bord des pétroliers avaient reçu l'ordre d'abandonner les navires avant les frappes. 4 navires ont été touchés dans le golfe d'Oman et un 5e près de l'île de Kard. Le CENTCOM a indiqué que ces pétroliers faisaient partie d'un réseau clandestin utilisé pour financer le corps des gardiens de la révolution islamique et ses mandataires régionaux. Chaque fois que l'Iran tentera d'attaquer des navires de l'US Navy, il perdra des pétroliers, a averti Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Les efforts des États-Unis pour étouffer l'économie iranienne semblent porter leurs fruits, mais des doutes subsistent quant à savoir si la pression financière suffira à amener Téhéran à céder aux exigences de Washington. Israël répond à la Grande-Bretagne et s'apprête à fermer le consulat britannique à Jérusalem suite aux sanctions imposées aux entreprises israéliennes de Judée-Samarie.
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sar, a annoncé hier une série de mesures de rétorsion suite aux sanctions qualifiées d'hostiles par le chef de la diplomatie israélienne. Dans une déclaration enregistrée au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem, Gideon Sar a affirmé avoir décidé de fermer, avec l'accord du Premier ministre Netanyahou, le consulat britannique à Jérusalem, d'expulser sous une semaine les représentants britanniques du Centre international de soutien à Gaza à Kiryat Gat et de dissoudre l'équipe de soutien britannique à Ramallah chargée de former les membres des forces de sécurité de l'autorité palestinienne. Le ministre israélien a qualifié, je cite, d'outrageuses et fausses les accusations de son homologue anglais Ed Miliband contre Israël. Malheureusement, un gouvernement travailliste hostile est au pouvoir et agit systématiquement contre Israël, ce qui ne nous laissera d'autre choix que de répondre à ces manœuvres hostiles. Un haut responsable israélien a confirmé à la rédaction de Radio Judaïka Bruxelles qu'Israël prendrait aussi des mesures de rétorsion contre la France, à savoir entre autres fermer le consulat de France à Jérusalem et demander aux militaires et officiers britanniques ou français présents dans les installations de Kiryat Gat.
Et le Premier ministre britannique Andy Burnham persiste et assume ses décisions prises contre Israël et la Judée-Samarie.
Pendant trop longtemps, nous avons hésité à agir par crainte d'être accusés d'hostilité envers Israël, a écrit sur le réseau social X le chef du gouvernement britannique. Selon lui, les mesures annoncées par Londres ne visent pas les citoyens israéliens et la politique du gouvernement Netanyahou qu'il juge, je cite, inacceptable au regard, dit-il, de la souffrance des Palestiniens qui représentent une tâche sur le monde.
Les bureaux de la diplomatie israélienne vont aussi interdire l'entrée en Israël à 12 élus britanniques jugés antisémites ou anti-israéliens.
Une décision prise suite aux sanctions annoncées hier par le gouvernement britannique contre les localités juives de Judée-Samarie. La liste comprend 11 membres du Parlement anglais, dont la majorité sont liés au Parti travailliste, mais aussi à la formation Your Party, et notamment son président fondateur Jeremy Corbyn, connu pour ses positions anti-israéliennes. L'avocat Fahad Ansari, qui a représenté l'aile politique du Hamas devant les tribunaux britanniques, fait aussi partie de cette liste. Le ministère des Affaires étrangères israélien a indiqué qu'il refuserait l'entrée aux personnes impliquées dans des activités antisémites et anti-israéliennes, ainsi qu'à celles qui nient l'existence même de l'État d'Israël.
Et de leur côté, les États-Unis ne sont pas d'accord avec ces décisions britanniques contre la Judée-Samarie.
Toute évidence, nous n'allons pas faire comme le Royaume-Uni. Nous avons vu leur annonce aujourd'hui, mais je n'ai aucun commentaire à faire en plus pour le moment, a déclaré le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui a indiqué que les États-Unis ne soutenaient pas les décisions déstabilisatrices, je cite, pour la Judée-Samarie, compte tenu de la situation sécuritaire dans la région. Nous pensons que ces décisions ont un effet négatif sur notre capacité à progresser concernant Gaza, le plan en 20 points et le Conseil de la paix, auquel nous sommes très attachés, a déclaré Marco Rubio. En outre, selon deux sources proche de l'entourage du président Trump, le chef d'État américain aurait été informé directement par le premier ministre britannique de sa décision d'imposer des sanctions à Israël et n'aurait exprimé aucune opposition, précisant que lors de cet appel téléphonique, Donald Trump n'aurait même pas demandé à Andy Burnham de revenir sur sa décision.
Israël détruit des entrepôts d'armes et une rampe de lancement du Hamas dans la bande de Gaza.
L'armée israélienne soutenue par le Shin Bet ont mené hier des frappes ciblées dans plusieurs zones de la bande de Gaza en visant notamment 3 dépôts d'armes liés au Hamas et au djihad islamique. Une rampe de lancement de roquettes a été détruite. Elle avait servi à tirer des roquettes contre le territoire israélien durant la guerre. Les organisations terroristes palestiniennes se servaient de ces entrepôts d'armes pour stocker des dizaines d'armes de différents types, notamment des roquettes, de Kalachnikov et d'autres équipements de combat. Autant d'armes qui servaient au Hamas à reprendre le contrôle de la bande de Gaza, selon les observations de Tzahal.
Le Shin Bet démantèle un important réseau terroriste en Judée-Samarie et à Jérusalem. 30 suspects ont été arrêtés.
Le réseau planifié des attaques contre les habitants des localités juives de Judée-Samarie et les forces de sécurité israéliennes, indique le Shin Bet, dans un communiqué conjoint avec l'armée et la police. 5 habitants de Jérusalem, membres du réseau, ont été inculpés d'infractions graves, je cite, à la sécurité de l'État d'Israël. 2 des terroristes arrêtés sont membres du groupe Shabab al-Aqsa, qui est affilié au Hamas, selon les services de sécurité israéliens.
L'Allemagne demande à la Cour internationale de justice de rejeter une procédure du Nicaragua qui l'accuse de faciliter le génocide israélien à Gaza.
L'affaire remonte à 2024. Après le lancement de l'offensive d'Israël à Gaza, le Nicaragua avait demandé au juge de la CIG, d'imposer des mesures d'urgence afin de contraindre Berlin à suspendre toute aide à Israël, en particulier les équipements militaires. La Cour a rejeté la demande du Nicaragua en avril 2024, estimant que les circonstances telles qu'elles se présentent actuellement ne justifiaient pas l'édiction de mesures d'urgence. L'affaire suit néanmoins son cours et l'Allemagne cherche désormais à la faire rejeter par la Cour, soit en mettant en avant l'incompétence des juges pour se prononcer sur cette affaire, soit en mettant en avant la nullité des arguments du Nicaragua. Berlin a ainsi déposé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité de certaines demandes présentées par le Nicaragua selon un communiqué de la CIG. Le détail de l'argumentation de Berlin n'a pas encore été rendu public.
Les Émirats arabes unis ne démentent ni ne confirment avoir prévenu Benjamin Netanyahou d'une attaque majeure du Hamas avant le 7 octobre 2023.
Les entités gouvernementales des Émirats arabes unis et d'Israël ont maintenu des lignes de communication ouvertes et directes depuis l'établissement de leurs relations il y a de cela plus de 5 ans. Le cas échéant, tous les renseignements pertinents ont été et continuent d'être communiqués entre les parties concernées, affirment les bureaux de la présidence émiratie, qui refusent de confirmer ou de démentir les informations publiées hier matin par le journal Haaretz, indiquant que le président Ibn Zayed aurait informé Benjamin Netanyahou des ambitions du Hamas d'attaquer Israël avant le 7 octobre 2023. Les bureaux du Premier ministre Netanyahou, de leur côté, ont tenu à démentir ces informations dans un communiqué écrit en anglais. Ces articles de presse sont faux. Aucun avertissement n'a été donné au Premier ministre israélien par les Émirats arabes unis avant le 7 octobre. Si des informations pertinentes existaient, elles ont été transmises par les voies de renseignement entre les deux pays. Fin de citation. L'administration Biden n'avait pas connaissance non plus d'un avertissement spécifique de la part des Émirats avant le massacre du 7 octobre, ont déclaré aujourd'hui. Aujourd'hui, 2 sources proches du dossier au Jérusalem Post. Même après le massacre, les responsables de l'administration Biden n'ont pas eu connaissance d'un avertissement spécifique émis par les Émirats, ont précisé ces sources au quotidien Israël.
Et l'ambassade de Slovénie, l'ambassade d'Israël va ouvrir ses portes en Slovénie.
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sar, se trouve aujourd'hui du côté de Ljubljana pour inaugurer la première ambassade permanente d'Israël en Slovénie. Il s'agira de la 5e nouvelle ambassade ouverte par l'État hébreu au cours des 2 dernières années. Cette ouverture intervient dans un contexte de rapprochement entre les deux pays depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement slovène dirigé par Janez Janša. Depuis sa prise de fonction, le Premier ministre slovène a affiché son soutien à Israël, notamment au sein de l'Union européenne, tandis que les deux pays ont exprimé leur volonté d'approfondir leur coopération. Ruth Cohen-Dar occupera le poste d'ambassadrice de l'État hébreu dans le pays. Les 73 blessés dans une vaste attaque des Houthis en Arabie saoudite.
Des missiles et des drones ont frappé 4 villes du sud du royaume ainsi que plusieurs installations énergétiques. Des incendies se sont déclarés. La base aérienne Roi Khaled figure elle aussi parmi les cibles annoncées par le mouvement terroriste yéménite. La coalition dirigée par Riyad affirme avoir intercepté une grande partie des projectiles. Les frappes et la chute de débris sont toutefois à l'origine de dizaines de blessés. Le mouvement terroriste Houthi a déclaré que ces frappes étaient une riposte aux raids aériens menés par l'Arabie Saoudite contre le Yémen.
Et justement, ce matin, l'Arabie Saoudite mène des frappes dans plusieurs provinces du Yémen suite aux attaques sur le royaume.
Actuellement, des frappes ont lieu dans les provinces yéménites de Marib, Al-Jaf et Taez. Aucun bilan ni détail sur les cibles visées n'a été communiqué. Riyad n'a pas encore confirmé ces opérations. Donald Trump salue la victoire historique de l'AFD en Allemagne. Le président américain a écrit sur Truth Social : « Ils en ont enfin assez des terribles lois sur l'immigration qui ont fait tant de mal à l'Allemagne. Ils deviennent plus forts et ne le tolèreront plus », a écrit le président américain. Sans citer directement l'AFD, il a conclu son message par « Make Germany Great Again », une formule inspirée de son propre slogan politique. On vous pose comme question du jour pour demain, la montée de l'extrême droite en Europe vous inquiète-t-elle suite à cette victoire de l'AFD en Allemagne ? Likoud présente une liste de 38 candidats à la prochaine Knesset.
Et le Premier ministre Netanyahou a tenu à présenter ses nouvelles recrues qui occuperont les places réservées au sein de la liste du Likoud. Parmi eux, Talik Vili, la mère de Ran Vili, un policier israélien tué par le Hamas le 7 octobre 2023 et dont la dépouille a été libérée en dernier de la bande de Gaza. On trouve ensuite Elisha Madan, un réserviste de Tzal amputé de ses deux jambes après avoir été grièvement blessé sur le champ de bataille de la bande de Gaza. Enfin, la nomination de Yaakov Berdugo, le journaliste phare de la chaîne 14, a fait grand bruit dans le Landerneau politique et médiatique israélien. 38 listes ont été déposées hier à la commission électorale de la Knesset. Une large majorité d'Européens souhaitent une Union européenne plus forte, plus unie et davantage indépendante, mais ils sont peu nombreux à croire qu'elle parviendra réellement à la devenir.
C'est le principal enseignement d'une étude menée par le Conseil européen des relations internationales et la Fondation européenne de la culture. Près de 7 personnes sur 10 estiment que la situation de l'Europe se détériore. 12% seulement se montrent optimistes pour son avenir. Les citoyens européens doutent de la capacité de l'Union à répondre concrètement à la guerre en Ukraine, à l'augmentation du coût de la vie, aux tensions commerciales avec les États-Unis ou encore à la concurrence avec la Chine. L'étude pointe aussi la lenteur des décisions européennes, le poids des réglementations et le droit de veto qui donne à certains citoyens l'image d'une union paralysée. L'enquête repose sur près de 5900 entretiens réalisés en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne et au Royaume-Uni. Sa conclusion est claire, les Européens ne rejettent pas l'union mais ils ne croient plus aux promesses de ses dirigeants.
En Belgique, le PTB a convié Hassan Piker, figure de l'extrême gauche démocrate américaine, à son événement Manifiesta. Il est pourtant régulièrement accusé d'antisémitisme et même devenu encombrant pour son propre parti.
À Ostende, les 12 et 13 septembre prochains, Hassan Piker montera sur la scène de Manifiesta, un festival politique belge organisé par le PTB. Le parti le présente comme l'influenceur progressiste le plus populaire des États-Unis. Il devra parler de la guerre à Gaza, de la montée de l'extrême droite et de la crise internationale. Pourtant, aux États-Unis, son nom soulève de nombreuses réticences, car Hassan Piker, qu'on appelle Hassan Abi sur Twitch, n'hésite pas à enchaîner les discours controversés. Ami avec Alexandria Ocasio-Cortez et le maire de New York, Zohran Mamdani, il s'affiche aussi aux côtés d'Abdul El Sayed. Il n'est plus un commentateur extérieur au système politique. Il est devenu même encombrant pour son parti depuis plusieurs années. Hassan Piker est régulièrement accusé d'antisémitisme, ce qu'il rejette. Son antisionisme, en revanche, est assumé. Il estime que l'association entre judaïsme et soutien à Israël est dangereuse. Il a déclaré dernièrement que si les juifs américains continuaient à donner l'image d'être exclusivement investi en Israël, quelqu'un finirait par agir non pas contre l'État d'Israël, mais contre les juifs américains. Des déclarations qui ont condamné, qui ont été condamnées même dans le camp démocrate. En 2019, déjà, il lançait sur Twitch « L'Amérique méritait le 11 septembre, tant pis, je le dis ». Pour une partie de la gauche américaine, il est représentatif de la jeunesse progressiste qui juge le Parti démocrate trop centriste. Pour les autres, il incarne les dérives d'une gauche radicale dont les outrances peuvent devenir un boulet électoral.
Plusieurs humoristes et artistes portugais ont annoncé leur retrait d'un festival organisé à Lisbonne en raison de la participation de Jerry Seinfeld et de son soutien affiché à Israël, rapporte la chaîne Euronews.
La première édition du Lisbon International Humor Festival, baptisé Comédia à la Carte Fest, doit se dérouler du 29 octobre au 1er novembre. Malgré les appels au boycott, les organisateurs maintiennent pour l'instant Jerry Seinfeld en tête d'affiche le 1er novembre. Depuis le massacre du 7 octobre, l'humoriste américain affiche régulièrement son soutien à Israël. Deux mois après l'attaque, il s'était rendu dans l'État hébreu afin de rencontrer des familles d'otages et d'entendre leurs témoignages.
Le Conseil officiel des communautés juives de Suède a renouvelé ses mises en garde concernant la présence d'un antisémitisme qu'il juge structurel au sein du parti de gauche suédois.
Cette nouvelle alerte intervient après l'exclusion de 8 candidats supplémentaires des listes électorales du parti. Selon plusieurs médias régionaux, des enquêtes internes et journalistiques ont révélé que certains avaient diffusé des théories du complot antisémite, exprimé leur soutien au Hamas ou fait l'éloge du président russe Vladimir Poutine. 33 candidats ont désormais été écartés du parti pour différents motifs, parmi lesquels l'antisémitisme, la négation de la Shoah, le soutien au terrorisme, l'homophobie ou encore la défense de régime autoritaire. Le président du Conseil officiel des communautés juives de Suède a rappelé que son organisation avait déjà critiqué le parti de gauche à l'automne 2024, lui reprochant de ne pas s'être désolidarisé de propos antisémites tenus par ses responsables. Il reconnaît que le parti a sanctionné plusieurs personnes, mais lui reproche de n'avoir pas lancé une enquête approfondie sur ses représentants.
La compagnie aérienne israélienne Arkia va ouvrir une liaison directe entre Israël et les Philippines, une première entre les deux pays.
À partir de janvier prochain, elle proposera un vol hebdomadaire entre l'aéroport Ben Gurion et Manille, la capitale philippine. Les départs auront lieu chaque dimanche. Les billets seront proposés à partir de 750 $ l'aller simple en classe économique et 1 800 $ en classe affaires. Avec cette nouvelle destination, Arkia poursuit son développement en Asie après avoir notamment lancé une liaison directe vers Tokyo. Miracle à Ouman, un missile balistique russe a atterri à quelques mètres seulement d'une camionnette transportant des juifs qui se rendaient en pèlerinage sur le tombeau de Rabbi Nachman de Bratislava. Les passagers s'en sont sortis indemnes. Et on termine ce journal par une note positive. Haïfa intègre le classement des villes les plus heureuses du monde.
La grande ville du nord d'Israël se classe au 187e rang de ce classement, selon une étude publiée cette semaine par l'Institute for Quality of Life, un organisme de recherche britannique. Elle est la seule ville israélienne à figurer parmi les 251 villes retenues. Pour mesurer la joie des habitants de Haïfa, l'étude repose sur 64 indicateurs mesurables liés notamment à la santé, au revenu, à la gouvernance, à l'environnement et à l'aménagement urbain. Au total, 466 chercheurs du monde entier ont planché sur ce rapport. Copenhague arrive en tête devant Helsinki, Genève, Uppsala et Tokyo. Derrière la ville de Haïfa, on trouve juste donc derrière les localités de Tashkent et de Split en Croatie. Londres occupe la 193e place et New York la 207e.